femme, Rowena, qui parle couramment l'anglais, le français et l'arabe, qui ont déjà fondé des églises avec essentiellement des musulmans convertis. Et donc, nous, on a de très bons amis aussi là-bas, Claire et Yves Gouest, qui font partie de la mission. Et ces gens-là sont franchement dévoués au Seigneur. Ce sont des gens d'environ 40 ans, 42 ans. Et c'est vraiment des bons amis. C'est très bien pour Patricia d'avoir des gens comme ça. Et puis il y a même une autre église. Elle ne tombera pas comme ça, poum, dans un désert spirituel. Parce que Fréjus, Saint-Tropez et tout ça, je le garantis, on rencontre de tout. Hein. Il n'y a pas que Jésus-Christ qu'on rencontre là. Alors, Fréjus, toute cette côte-là hein, est fréquentée par tellement de gens qui viennent de toutes les nations et qui amènent leur virus spirituel. Il n'y a pas que les virus comme tels. Donc, dans Luc chapitre 15, il y a un récit où il y a un homme qui a un papa qui a deux fils, et le plus jeune dit à son père, « Cher papa, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Donc, il partage, il estime les biens, et puis il va donner la valeur de la moitié à son fils. Mon grand-père qui habitait ici, qui avait travaillé très dur dans sa vie, qui avait perdu sa femme, et qui avait eu 6 enfants, et un jour une fille qui a fait ça, et qui a, par jalousie vis-à-vis de mon père, qui avait des enfants, mon père était le seul à avoir des enfants, qui a dit, moi je ne veux pas que les enfants de mon frère héritent de tout, je me marie. Et donc je me marie, j'ai des enfants, et après, elle l'a mis au tribunal mon grand-père pour avoir sa part. Donc, avec son mari, ils ont tout fait pour vendre la maison, tout. Heureusement, mon grand-père était à peu près, je pense, encore taillé dans un bois meilleur que moi. Mais en tout cas, j'aurais agi de la même façon. Il avait déjà fait, avant que ça arrive, estimer la valeur de la maison. Et il avait tout acté chez le notaire. Il avait déjà mis l'argent de côté pour la part de cette fille qui allait jouer des tours. C'est comme ça que, par exemple, je me comporte avec d'autres. Je sais d'avance ce qu'ils vont me faire, longtemps à l'avance, et en priant, longtemps à l'avance, je prends déjà les devants, et je ne dis rien. Quand ça arrive, ça arrive. Je suis étonné de rien. Pratiquement, ce qui est arrivé à mon grand-père, c'est qu'il a donné l'argent. Mais l'effet de surprise étant passé, ils étaient violents, parce qu'ils n'avaient pas mis le grand-père et les autres frères et sœurs dehors, ni mon père dans la maison à côté, qui appartenait au grand-père. Ils n'avaient arrivé à déposséder personne. Ils avaient leur part, mais ce n'était pas ça. Ils voulaient la destruction de la famille. Dans les sentiments de rancune et de rancœur dans une famille, il y a des choses très puissantes qui sont... il n'y a pas toujours besoin de parler de Satan. C'est la puissance du péché, la puissance de la haine, de l'égoïsme. C'est l'être humain dégénéré, dénaturé, dépravé depuis... que Adam et Ève ont accepté de signer un pacte avec le diable pour eux et leurs descendants. On ne peut pas toujours faire porter tout au diable, c'est trop facile ça. Il y a chez nous, en nous, une puissance d'orgueil et de vanité qui prend des aspects différents. Chez certains, c'est la souillure sexuelle, chez d'autres, c'est la beuverie, les orgies, tout ça. Chez d'autres, c'est les grosses bagnoles, les grosses baraques, beaucoup de champs. Chez d'autres, c'est la hargne, la jalousie, la rancœur, etc. Chez d'autres, c'est la guerre, l'esprit de meurtre. Chez d'autres, c'est même l'anéantissement de l'humanité. L'antichrist, ce sera ça. Et, comme Hitler, des gens pareils, mais ça, c'est encore des petits gugus à côté de l'antichrist qui va arriver. Donc, pratiquement, il y a... le péché prend des aspects différents, et ce qu'il y a, ça casse les familles. Où y a-t-il une famille qui n'a pas de problème sur la terre, depuis le péché d'Adam et Ève? Où y a-t-il dans l'amour humain, je t'aime, je t'aime, je t'aime, y a-t-il pas de l'escroquerie, tôt ou tard? C'est rare. Et donc, ici, il y a un des fils qui agit de cette manière-là, comme j'ai vu dans ma famille. Et attention, ça c'était une famille de mon père. Mais ma mère provient d'un village plus loin, en Encours, eh bien c'est la même chose. Hein? Il y a un fils qui a fait ça, qui a tout fait pour que les trois filles n'aient rien. Pour y réussir, il a séduit une des sœurs qui s'est mise avec lui, etc. Puis choisit un notaire qui a caché les papiers, etc. Le notariat est toujours en fonction à Virton, bien connu. Et pratiquement, cacher des papiers, défavoriser, nous recevoir avec le fusil, mettre des clous dans les pneus, et arriver à ce qu'on ne voit plus le grand-père et la grand-mère. Sachez bien que quand Cain et Abel ont été éduqués par Adam et Ève, ils ont été éduqués par des parents qui venaient de pécher, qui avaient accepté la proposition d'orgueil de Satan. Mais il y a un des frères qui a tué l'autre. Et Cain a osé dire à Dieu, après avoir tué Abel, suis-je le gardien de mon frère ? Hein ? Donc ce cirque existe bien, c'est le cirque du péché, c'est la réalité du péché. Eh bien ici, la réalité du péché est prête à la figure d'un père qui est plein d'amour pour ses deux fils, et il peut qu'aimer, il ne peut qu'aimer. Alors, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Débauche, on pense à la sexualité, mais le mot en grec c'est azelglia, c'est-à-dire dérèglement. Il a peut-être acheté des belles voitures, etc., fait des rallyes, il a replié les bagnoles, il a recommencé qu'une autre. Je connais quelqu'un, moi pas loin, il a comme ça cassé, il était fils unique, il a cassé des tas de bagnoles. Les parents ont dû avoir une tête comme une poubelle, à force de faire ça. Mais la débauche, ça peut être tout simplement, je fume mon joint, mon cannabis, et puis après je passe l'héroïne, je prends les piqûres, et puis j'arrive les quatre fers en l'air, on me récupère, on me met à l'hôpital pendant quelques années, et puis voilà. Hein. Pratiquement, il y a des dérèglements de tous ordres, c'est pas forcément sexuel. Bien que souvent, tous les dérèglements se résument OAS, orgueil, argent, sexe. Hein. OAS. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc, il n'y a plus de biens nulle part, il ne peut pas aller même en piquer aux autres, il ne peut pas faire du commerce, il n'y a rien. Il peut spéculer sur rien du tout. Donc, il est privé de toute ressource vicieuse, je dirais. Toute ressource qui permet d'assouvir ses convoitises. C'est la terre aride. C'est ce qui attend l'Occident. Comme ça s'est passé pour Israël, après Nebuchadnezzar, c'est ce qui attend l'Occident, à force de provoquer Dieu. Aucune convoitise ne pourra être assouvie lorsque ça arrivera. Alors là, la désolation, certains vont s'endurcir dans leur cœur, blasphémer contre Dieu, dit l'Apocalypse, dans les tribulations, c'est pas pour les vrais chrétiens, mais pour la population du monde, hostile à Dieu, et d'autres vont se convertir. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Quand on parle de famine, on pense que, c'est l'histoire de là. Et actuellement, l'Europe, si vous voulez, par rapport à la nourriture qu'elle produit et ce qu'elle consomme, c'est comme si le 3 août, cette année-ci, le 3 août, il n'y avait plus rien à manger jusqu'au 31 décembre. Tout ce que l'Europe produit jusqu'au 3 août, du 1er janvier au 3 août, pour nourrir l'Europe, après il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est parce qu'on a été volé autre part. Du 4 août au 31 décembre, on a été volé autre part la nourriture. Ça, ce sont des scientifiques, des économistes qui étudient ça. Vous voulez que je vous photocopie ce rapport ? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pour que tout le monde ait à manger, il faudrait serrer la ceinture, tout le monde, et être raisonnable. Et vous savez qu'un Belge mange 4 fois ce qu'il devrait manger. Il mange 4 fois ce qu'il devrait manger, un Belge. Regardez-moi d'ailleurs. Regardons-nous. Alors, c'est la même chose là. C'est pas différent, mais il ne faut pas dire que c'est une histoire ancienne. C'est une histoire d'actualité. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Et qu'est-ce qu'il va faire? Celui-ci l'envoya dans ses champs pour garder les cochons. Les pourceaux, donc c'est généralement les petits cochons et les cochons moyens, mais enfin, ça peut être même les gros parfois. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Juste un peu avant le culte, je me dis, il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent au culte et que je doive changer de prédication, de mon sujet que j'avais préparé plusieurs heures. Et je priais, bien sûr, dans ma chambre, et j'ai pensé à cette colline à Bet-Shemesh, où j'ai été en 2008. Cette colline, on est monté à pied, à 3-4, et puis il y avait des arbres partout. Et en montant, je n'avais jamais vu ça, ils pendaient des grands, comme des grands haricots, des machins comme ça, tout brun, tout noir. Et quelqu'un me dit, quelqu'un qui avait déjà vécu en Israël, oui. Et alors pratiquement, j'en ai pris, ça sent, c'est comme du chocolat, sauf les grains dedans, c'est comme de l'acier. Vous y casseriez vos dents, hein, c'est impossible. Hein. Une graine, je ne sais pas comment ça germe, à mon avis, il faut de l'humidité et tout, et comme il fait très sec là-bas, je ne sais pas. Ben, c'est les miracles de Dieu, de toute façon, si ça pousse. C'est qu'il a ses procédés à lui, le Seigneur. Pratiquement, ce qu'il y a, c'est, j'ai vu ça, il y en avait partout dans la colline, et puis il y avait des ouvriers palestiniens, arabes, qui travaillaient, des tracteurs, des fraises, qui remuaient le sol. Pourquoi? Quand on remue le sol, eh bien, ça fait un coussin comme de la laine de verre, et en dessous, le sol n'évapore pas. Cette couche remuée, on appelle binée, sarclée, fait isolant. Dans toutes les vignes du sud de la France, tous les jours au matin, les gens partent à 2-3 heures du matin, travailler, rentrent à 10 heures, il fait trop chaud, ils ont fait du sarclage, du binage avec des machines, évidemment, et parfois à la main, entre les pieds des vignes. Pourquoi? Parce que c'est la nécessaire protection. Et là, il y en avait des centaines d'hectares tout autour, c'était comme un dôme, cette colline, et au-dessus, des arbres, des beaux arbres, des fleurs, etc., un beau paysage, une petite église avec 4 vieux prêtres, très vieux, hein. Plus jeune certainement, avait 75 ans, et pratiquement, il y avait plein de monde qui passait, mais qui ne s'arrêtait pas. Pas de photos des vieilles pierres, des mosaïques et tout ça, et pratiquement, qui allait derrière, et moi j'avais observé le manège, je dis, c'est prêtre, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, il y a des bibles derrière avec le Nouveau Testament, ce sont des juifs, ils viennent chercher des bibles, avec l'histoire de Jésus, et il y a entre 100 et 110 000 juifs qui viennent par an prendre des Bibles, une, deux, trois, quatre, il y en avait des montagnes. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça, au mariage d'une copine, de nos filles, je ne voulais pas y aller, et en priant, le Seigneur me dit, si tu y vas, tu rencontreras quelqu'un peut-être. Dans la prière, comme ça, je n'avais vraiment pas envie de me farcir un mariage, je sais souvent toujours la même chose. Alors, en plus... ça ne change rien. S'ils aiment vraiment, ça réussira. Si c'est bidon, ça ne réussira pas. Ce n'est pas moi qui suis là qui va faire quelque chose en plus ou en moins. Pratiquement, ce qui se passe, je m'étais quand même repris par le Seigneur et j'y vais. Et effectivement, il y avait Myriam, une juive convertie à Jésus, et son mari Helmut. Et c'est eux qui allaient, toutes les semaines, à 15 minutes, porter des Bibles à Banstock, des Bibles avec le Nouveau Testament, en russe, en arabe, en roumain, en bulgare, en anglais, en français et en hébreu, avec Jésus, bien sûr, le Nouveau Testament, gratuitement, parce qu'ils sont d'une église messianique, juive messianique, à Jérusalem, qui cotise et fait imprimer des Bibles. Donc, j'avais la confirmation vivante que c'était, j'avais pas rêvé. Et pour Bénédicte, pour d'autres qui avaient entendu que j'en parlais, c'était la confirmation, l'attestation de ce que j'avais dit. Mais je pense que le fils prodigue qui s'est écarté de Dieu, c'est d'abord Israël. Cet Israël retourne derrière cette colline, en stommeling, comme on dit en belge, ça veut dire en douce, rechercher une Bible sur la colline, et il retourne à Jésus. Israël retourne à Jésus. Et ça ne s'est pas mis à la télévision, à la radio. Le diable n'a pas besoin de dire ça, lui. Il n'aime pas ça. Donc ça ne passera pas pour la radio et la télévision. Ça passe dans les cœurs des juifs qui vont chercher une Bible. C'est ce qui est dans le secret du cœur que Dieu voit. Le baratin des masses médias, c'est pas ce qui est souvent ce que Dieu voudrait dire des choses par là, mais le diable a mis la main sur ces choses-là. Alors, les fils prodigues, pour moi, en premier lieu, c'est Israël. Ce texte, c'est concernant Israël et son retour vers Dieu. mais jusqu'au point d'être dans la détresse totale. Eh bien, regardez bien, ils sortent des camps de concentration, et 3 ans plus tard, la SDN, Société des Nations, vote, au mois de novembre, la création d'un État palestinien, d'un État israélien, et le 12 mai 1948, Ben Gurion et d'autres...
C'est pas le 14 mai ? Je crois que c'est le 14 mai.
14 mai, ouais. Créé officiellement, suite au décret de la SDN, l'ONU, hein, c'est devenu l'ONU après, l'État d'Israël. Donc l'année prochaine, à cette date, c'est 70 années de création d'Israël officielle. Mais regardez bien, pour arriver à retrouver sa terre et être béni, quelle humiliation pour ce peuple, quelle détresse. Hein ? Maintenant, je prends notre cas individuel. Nous sommes tous à tour de rôle des Gugus, je ne le dis pas. Je peux vous dire franchement, nous avons tous l'art de nous opposer à Dieu tôt ou tard dans notre vie. Nous avons tous l'art de cracher dans la soupe, de refuser les bénédictions et d'obéir. Même celui qui paraît le plus brave ici. Nous avons tous l'art, un jour, de faire le contraire de ce que Dieu a demandé. Et, un jour, quand on est bien écrabouillé, là, quand on a les os brisés, comme dit Paul, David dans le psaume 119, tu n'as point de mépris des os que tu broyas, c'est-à-dire de l'être, de l'âme, tu broyas. Avant que tu m'humilies, je m'égarais. Il me montre d'être humilié au Éternel. Bon, David, qui avait fait le foufou, hein, 9 femmes, etc., et des folies, des meurtres, etc., et qui pourtant a reçu des dons formidables, et l'exemple même de quelqu'un qui a abusé de la confiance que Dieu lui donnait et des bénédictions qu'il lui donnait. Nous sommes tous des abuseurs. Il n'y a pas que ceux qui abusent des enfants. Il n'y a pas ceux qui abusent de l'argent des autres. Nous abusons de Dieu. Il fait du soleil tous les jours pour le bon et le méchant. Il pleut pour le bon et le méchant. Notre code génétique, en nous, dans chaque cellule, c'est une merveille qui est impossible à un être humain de créer. Nous sommes incapables de créer une mouche durant toute notre existence. Nous sommes souvent des abuseurs sans le savoir. Des bénédictions de Dieu. Il faut avoir un esprit de repentance. Il faut avoir cet esprit à retourner vers Dieu et à ne pas gaspiller ce que Dieu nous a donné. Pourquoi est-ce que je me mets à fumer 2 paquets par jour pour tuer mon corps que Dieu m'a donné, que je n'ai pas fait ? Pourquoi est-ce que je bois au point de me détruire ? Pourquoi est-ce que je roule comme un fou sur la route ? Comme un taré ? Pour tuer des autres, pour me tuer ? Pourquoi ? Pour assouvir une haine inconsciente, une déprime que je n'avoue pas. Pourquoi certains vont-ils sur les ponts et sauter à l'élastique jusque là où ça tourne mal ? Rupture d'anévrisme, souvent, là. Quand il n'y a pas un pont, c'est une immense grue, au milieu d'une foire commerciale ou quoi, on saute. Pourquoi on joue avec ça ? Pourquoi est-ce qu'on joue avec l'amour ? À 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans maintenant avec les films et tout ce qui s'est passé, qui se passe sur les téléphones, les gosses veulent singer les conneries de Sodome et Gomorre. Et on les invite à se plonger dans la boue du diable, du péché. Et pratiquement, à 13, 14 ans, ils sont déjà comment ? 16 ans, 18 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas que celui-là qui est avec ses cochons. C'est l'humanité pour moi. C'est pas seulement Israël. C'est l'humanité. Ce sont tous les pécheurs que nous sommes. Alors, regardez, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Dans ce rapport que j'ai vu dans le journal, ils disent, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ? L'Europe va encore consommer, ça ne sera pas jusqu'au 3 août. Et les statistiques, c'était l'année d'avant, c'était jusqu'au 19 août. Et puis l'année d'avant, c'était au 21 septembre. Donc ça se restreint. On va arriver au 15 juin. L'Europe aura consommé tout ce qu'elle produit au 15 juin. Parce que de plus en plus, on déconne. Je ne peux pas employer un autre mot. Avec la nourriture, on en jette partout. Alors, pratiquement, on en achète et on en dépense et on en jette. En sachant que d'autres n'en ont pas. Et pratiquement, la quantité diminue, puisque en 2100, nous sommes 11 milliards sur la Terre. La quantité diminue. La surface de terre habitable diminue parce qu'on fait des villes, des tarmacs, des plaines de jeu, enfin tout ce qu'on veut, des pelouses. Et on tue aussi. On envoie des bombes, on pollue chimiquement. On pollue chimiquement des terres qu'on ne pourra plus jamais cultiver. En plus, on a battu des forêts et avec la pluie, tout part dans l'océan. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il est tout dépensé? Ça, c'est l'être humain, je pense. Une grande famine survient dans ce pays, il commence à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service de l'un des habitants du pays qu'il envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Donc, quelqu'un qui cultive, qui élève des cochons. Il est juif, le pauvre. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, c'est un homme qui n'ose même pas prendre de la nourriture aux cochons. Je vais prendre un exemple. Vous pensez que c'est de l'irréel. Je vais prendre un exemple. Quand vous êtes sur le bord de la côte du Sénégal et que vous voyez des films, vous voyez tous ces gars-là qui prennent des barques en bois qu'il faut vaincre. Ils préparent leurs filets. Les barques en bois, elles sont en peinture ou délavées, la peinture délavée, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour les remettre en peinture, protéger leur bois. Ils vont sur les vagues, ils vont plus loin, quelques kilomètres pour pêcher. Ils viennent avec rien du tout, quasiment rien. Pourquoi? Parce que 10-15 kilomètres plus loin, il y a des usines flottantes, des immenses bateaux qui tirent des filets de 20, 30, 40, 50 kilomètres et qui remontent ça avec des treuils et ils ramassent des centaines de tonnes de poissons. Ils n'arrivent plus à la côte, les poissons.
Et les mailles, ils les font toutes petites.
Alors, oui?
Plutôt que des grosses. Comme ça, les poissons se passent des charpies.
Alors,
et les pêcheurs des régions, eh ben, ils n'attrapent plus de poissons. Ils doivent aller à des kilomètres, et ils ne reviennent jamais parce qu'ils se font prendre dans la mer, dans les tempêtes et tout, et voilà.
Alors, pratiquement tous ces jeunes qui travaillaient sur les bateaux, qui pouvaient nourrir des tribus entières en vendant le poisson, sinon plus rien. Et ils passent en Méditerranée, à Gibraltar, ils arrivent en Europe. De quoi nous plaignons-nous?
Mais avec des bêtes barquettes.
Hein. Ils passent. Alors, pratiquement ce qui se passe, vous voyez à quel point ces usines, quand elles ont le poisson, tout de suite on le traite, hein, il y a des ouvriers payés presque rien, des Pakistanais, etc., autres, des gens de tous les pays, hein, des gens de pays qui n'ont pas de travail, ils travaillent dans ces usines, ils n'auront pas de loi sociale, rien du tout, ils travaillent là. 15-16 heures par jour, et c'est congelé, surgelé. Ça arrive ici, dans nos grandes surfaces. Et nous sommes contents, nous sortons avec notre caddie. Ou alors, mieux, les trois quarts de la nourriture, de poisson, est broyé, fait en farine, et on nourrit les cochons et les poulets. Pour que nous, on ait des beaux poulets à la rôtisserie et des beaux poissons dans l'étalage poisson.
Et
pour les cochons. Non, puisque les poissons nourrissent les cochons. Alors, vous allez en Flandre, on a été, ma femme et moi, en Flandre, on a vu, on était avec des enfants là, on avait prêté notre maison à quelqu'un, des Flamands, et nous, on était là-bas, tout près d'Anvers. Et puis, on n'osait pas ouvrir la fenêtre, pas sortir, pas ouvrir la bouche même. Ça sentait le cochon partout, mais on ne voyait pas de cochon. C'était des hangars entiers, des silos de farine de poisson, et ça puait le poisson partout. Alors on sauvait dès le matin de là, et puis une fois j'ai été chercher de la viande à la boucherie. On l'a cuit, elle avait le même goût que ce qu'on respirait. Alors c'était fini, on s'est dit on n'ira plus jamais là. C'était à Brecht, tout près d'Anvers. On s'en rappellera. Mais en attendant, pourquoi est-ce que les cochons là sont des milliers de cochons en hangar, nourris par de la farine de poisson, qui partent dans des camions, vous les voyez sur la route de Nancy-Metz, pour nourrir la France, pour nourrir la Belgique, pour nourrir l'Autriche, l'Italie, on envoie des cochons partout, nourrir de la farine de poisson. Donc, la famine est souvent préparée par l'homme. Si les gens au Sénégal et en Guinée, au Ghana, sur les côtes, ne savent plus nourrir les villages, l'économie régionale, c'est parce que nous avons ici une industrie, une organisation injuste, inique. Alors, les amis, moi je pense que quand l'ouvrier travaille là-bas, dans le bateau. Il voudrait bien manger un des poissons qu'il y a là, le Pakistanais ou le Sénégalais qui est dans le bateau-usine. Il voudrait bien manger un des poissons, mais il ne peut pas. Il voudrait bien s'arrêter une minute et fristouiller, je ne sais pas moi, un caviar qui passe ou je ne sais pas quoi. Peu importe, il ne l'aura pas. Il est là, c'est un mandai, il n'aura rien de plus que ce qu'il a eu hier et avant-hier. Vous en prenez ? Et c'est ça le gars-là. Il est là, il est privé de tout. Il ne peut même pas demander à manger les carouches des cochons. Vous comprenez que c'est du réel, ça ? Personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim ?» Dans un monde où le Père nous dirige, dans un monde, dans une économie où Dieu nous dirige, où Dieu donne la pluie, le vent, le soleil à tout le monde, il y a à manger pour tout le monde. Il y a des scientifiques écologiques qui ont dit qu'on pouvait manger, on pouvait être 40 milliards sur la Terre et manger 3 fois par jour, tout le monde, à condition de ne plus nourrir les cochons, les vaches, avec de la farine de poisson, avec tous les trucs qu'on prend dans les pays des pauvres. Alors, regardez bien, le pays du Père, cette terre appartient à notre Père des cieux. Cette terre, nos champs, nos jardins appartiennent à notre Père des cieux. Nous ne pouvons pas nous conduire n'importe comment avec cette terre. S'il y a des malheureux sur terre, c'est parce que nous pensons que cette terre n'est pas à notre Père, mais qu'elle l'est à nous et qu'on en fait ce qu'on veut. Vous voyez ? Eh bien, cet homme-là, qui avait été éduqué, aimé dans sa famille, par son papa, eh bien, il va dans un monde d'égoïsme, de méchanceté, et il n'arrive pas à tenir le coup. Il est sans son père, il est sans Dieu. Combien de gens aujourd'hui vont voir le psychiatre, boivent, fument, se jettent dans le sexe, n'importe quoi, parce que ce monde, il n'arrive plus à y vivre. Il n'arrive plus à y vivre. Parce que ce monde appartient à notre Père. Mais ils ne veulent pas du Père. Ils ne veulent pas que leur vie et ce monde appartiennent à leur Père. Il faut qu'ils soient jusqu'au bout brisés pour retourner au Père. Vous voyez l'orgueil de l'humanité ? Vous voyez ? De quoi nous sommes faits depuis le péché d'Adam et Ève ? Étant rentré à lui-même... Il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. » Avec le Père, nous vous aurons à manger. Dans le royaume de Dieu, de Christ, nous aurons à manger. Parce qu'il n'y aura plus une terre sans Père. Il n'y aura pas une terre sans roi, un roi de justice et de paix. Alors voilà ce que dit le Fils. « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il faut que l'humanité fléchisse les genoux. Et c'est mis dans Philippiens au chapitre 2, tout genou fléchira. Et il faudra bien qu'on fléchisse ses genoux. Même tous les crâneurs qu'on voit souvent à la télévision qui dirigent actuellement le monde. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un tel mercenaire. Il se leva et alla voir son père comme il était encore loin. Son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Nous voyons que le Père que nous avons, le Créateur, est bien meilleur que nous. Parce que s'il était aussi pire que nous, il n'y aurait plus demain de soleil. S'il n'y a plus de soleil, un quart d'heure après, nous sommes congelés à moins 170. Vous savez ça ? En un quart d'heure. Terminé. Si demain, tous les jours, à chaque seconde, notre Terre tourne à 453 mètres secondes, s'il l'arrête, elle fait passer à 300 mètres, à 200 mètres seconde, ou il l'arrête, les océans passent avec l'inertie autour de nous pendant des siècles. Ils arrachent tout. Il n'y a plus d'Alpes, il n'y a plus d'Himalaya. Tout serait raboté et au fond des océans. Il n'y aurait pas de tour de contrôle pour les avions. Il n'y aurait pas de tour Eiffel. Tout serait au fond des océans. Il suffit que Dieu change la vitesse de rotation de la Terre de 5 ou 10 mètres secondes. Et c'est fini. Donc Dieu, dans sa puissance et sa sagesse, pour celui qui veut le comprendre, nous aime. Et il attend qu'on se repente. Il attend qu'on se repente. Il nous aime s'il était aussi véreux que les pêcheurs que nous sommes, il y a longtemps qu'on n'existerait plus. Alors, la manifestation de ce qui se passe dans le cœur de cet homme, c'est la découverte de l'amour de son père. La découverte. Il le connaissait avant, mais il faut le redécouvrir. Nous aussi, nous sommes appelés à redécouvrir l'amour du Père pour nous. Nous sommes appelés à redécouvrir celui que nous avons tous trahi, tôt ou tard dans notre vie. Le retrouver. Le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel. » Donc, son trône de gloire, le temple divin, les anges, les archanges, et toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc, c'est vraiment la honte, l'humiliation. Et alors le Père, lui, c'est lui qui va dire, mais tu es toujours mon fils. Le Père dit à ses serviteurs, donc aux anges, apportez vite la plus belle robe et revêtez-l'en. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gratuit, on va faire la fête. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. Les amis, considérons l'amour de Dieu pour nous d'une manière absolue. Considérons que notre amour pour Dieu est bien maigre, qu'il faut se repentir et qu'il faut l'aimer vraiment comme il nous aime. Comme il nous aime, les amis. Prenez Jean, chapitre 17. Vous verrez à ce moment-là la paix venir dans le cœur. Vous verrez à ce moment-là la joie venir dans le cœur. Il n'y a pas de joie sans un amour qui progresse pour Dieu. Si vous voulez un petit amour comme ça pour Dieu, et vous en contentez, vous traînerez les semelles tout le temps. Vous aurez toujours l'âme tordue et dans le mal-être. Alors, qu'est-ce qu'il dit, notre cher Jésus? Il dit, Père juste, chapitre 17.
Verset combien?
Attendez, chapitre 17. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pour les apôtres, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, si vous croyez ce que je vous dis aujourd'hui, par la parole que moi j'ai reçue des apôtres, que je le vois dans l'Écriture, que vous pouvez trouver dans l'Écriture, qui vient des apôtres, eh bien, si vous croyez, vous êtes sous la prière de Christ. Imaginez. Mais admettez-le, que si Christ n'était pas notre avocat, notre cause est perdue. Totalement. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La fin de ce verset 23, Jean 17, 23, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Imaginez. Est-ce que, en sortant d'ici, en allant se coucher au soir et en se levant, en se réveillant en lui, elle dit au Seigneur, je me laisse aimer par toi. J'arrête de mettre des entraves à ton amour sur moi. J'arrête de jouer avec ce qu'il y a de plus sacré et que tu m'offres. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Le fils prodigue ne connaît pas, mais après il va connaître. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et je sois en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux, je sois en eux. Le fils prodigue a reçu une pleine révélation de l'amour de son père. Il a reçu par l'accueil que le Père lui faisait et aucune rancune, aucune amertume du Père. Rien que de l'amour et du pardon. Il a connu le plein amour. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un amour médiocre. Vous casserez toujours la figure. Vous casserez toujours la figure. Si vous n'avez pas soif de l'absolu, de cet amour comme le Fils prodigue qui revient, je vous plains. Et je me plains aussi. Et regardons bien l'autre, l'autre enfant. Dans Luc 15, l'autre enfant, verset 25, lui, il n'a besoin de rien apparemment. Luc 15, verset 25, le fils aîné était dans les champs. Donc lui, il est sage sur ses propres yeux. Il se lève au matin, il va au boulot, il rentre le bétail, il rentre les récoltes chez le papa, il fait tourner l'entreprise, il fait tourner le boulot. Il est sage sur ses propres yeux et il est sage pour les autres dans la société. Oui. Mais quand l'autre frère arrive et qu'il voit le père qui lui donne tout l'amour, lui, il ne voit que des règlements. Il ne voit que des comptes, des comptabilités. Ce Gugus-là a bouffé la moitié de la baraque. Mon père l'aime encore, alors qu'il devrait cracher dessus. Ce frère aîné n'a pas d'amour pour son frère. C'est Caïn, suis-je gardien de mon frère. C'est Caïn avec la bonne conscience. C'est Caïn qui est bon à ses propres yeux. Le bandit, en général, c'est pas celui qui a étripé tout le monde. Le vrai bandit, c'est le brave type ou la brave femme qui est sage à ses propres yeux, qui se donne une bonne conscience. Je me rappellerai toujours en théologie dogmatique, au séminaire, mon professeur qui disait, Jean, à l'examen, qui sont les plus nombreux dans l'enfer? Les bandits, les violeurs, les tueurs, les escrocs? La question. Et il me laissait. Alors, j'étais embêté. Il m'a dit, les braves gens. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui ont bonne conscience. Qui n'ont rien à attendre de Dieu parce qu'ils ont tout trouvé en eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin du repentir? Les braves gens, j'ai jamais oublié ça. Il me disait à l'examen, parce qu'il y avait la doctrine, il y avait tout, il fallait répondre. Mais après, il prenait des cas concrets. Jean, tu es prêtre? Ben, imaginons que je suis plus prêtre, je suis pasteur. Je te promène dans le village et tu vois quelqu'un, un brave homme qui scie le bois. Il a sa gaille et il a une bûche de bois, il scie le bois. Maintenant, ce sera tronçonneuse. Hein. Il scie le bois. Et puis, il faut passer. Hein, monsieur le curé, que j'irai au paradis. Je n'ai jamais volé personne, je n'ai jamais fait du mal à personne. J'ai toujours fait mon travail. Hein, que j'irai au paradis, monsieur le curé. Naturellement, monsieur le curé va dire, mais oui, mon brave, entre parenthèses, tant que tu viens à la messe. Hein? Mais, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu en penses? Le professeur me pose la question. Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Mais j'ai dit, j'ai bien vu que... J'ai dit, mais c'est un piège, ce truc-là. Je le dis à mon professeur. Il ne va pas au paradis parce qu'il est brave. Ah là, ça c'est bien, t'as bien répondu. Il va au paradis, pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'il s'est reconnu pécheur et qu'il a accepté le sacrifice de Christ. C'est un homme qui était dans la dogmatique. Hein. C'est pas question qu'il soit un catholique ou un évangélique ou un protestant. Il connaissait la Bible, c'est un bonhomme qui était clair. Il m'a dit, il n'a pas besoin de Dieu celui-là. Ben il n'ira pas au paradis. Les amis, voilà le deuxième gaillard dans la famille. C'est une sacrée famille tout compte fait. C'est tous des pécheurs. Il faut savoir qu'on peut avoir des enfants comme on veut, 10, 15, ou 2, ou 0, ils sont tous pécheurs quand ils naissent. Hein. Et la deuxième chose, moi aussi je suis sorti du ventre d'une femme, il y avait aussi 3 frangines. Ils sont tous pécheurs. Et ça remonte à Adam et Ève. Hein, le beau cirque. Alors, pratiquement, ce qu'il faut faire, c'est recevoir l'amour de Dieu, le reconnaître, et se repentir. Venir à Dieu. Alors, le fils aîné, verset 25, était dans les champs. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Ça y est, Dieu pas content. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis il apprend par quelqu'un qui passe en chemin que son frangin est revenu. Alors, ça. Il devient comme une bombe, quoi. Hein. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Vous savez, il y avait peut-être 200 veaux, hein. C'est pas qu'il y en ait un en moins ou en plus qui faisait quelque chose. C'est le geste que le père ait tué un veau pour faire un repas et tous les amis pour accueillir le frère. Qu'il y en ait 199 ou 200, vous savez, un veau, ça crève vite dans une ferme, hein. Faut pas grand-chose. Donc c'est pas... C'est le geste. C'est que le père a de l'amour pour un pécheur, son frère. Est-ce que nous, dans l'Église ici, nous avons de l'amour pour ceux qui sont tout près de nous et qui sont pécheurs, au point de nous réjouir auprès de Dieu, déjà de prier à l'avance, nous réjouir du jour où il va les rappeler pour qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés? Il faut déjà se réjouir d'avance. Oui. C'est ça. Il faut rendre grâce. Il faut être joyeux. Il faut savoir que le Père est à l'œuvre pour faire revenir chaque pécheur. Et moi, je ne dois pas être une entrave, un obstacle, par un mauvais cœur, par un, je ne sais pas, une espèce d'égoïsme personnel et un but de soi-même. Je suis bien, moi. Alors, pratiquement, regardez bien, il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Vous savez que dans l'épître de Jacques, verset 28, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Donc c'est déjà la colère, mettez ça à la poubelle directement, pardon Seigneur. Et Pierre dit dans son épître, ne vous endormez pas sur la colère, parce que vous donnez accès au diable. Ah tiens, ah oui, je vous m'en dis, j'ai raison. Si je le retrouve, je lui casse la figure. Celui-là, je ne lui pardonnerai jamais. Mais le diable va venir dans votre vie et il va faire des œuvres néfastes pour vous et votre entourage. Vous voulez ça? Non. Si vous ne le voulez pas, n'ouvrez pas la porte. N'acceptez pas que la colère reste. Déposez-la au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Je suis encore sur mon 3000 tours. Seigneur, remets-moi à 1500 tours pour mon moteur. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit, le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. » Allez. Donc, il se présente avec amertume devant son papa et il ne pense pas au frère. Il ne pense pas à la joie du papa d'avoir retrouvé un fils perdu. Quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ton fils, il ne dit pas mon frère, hein. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Prenez ce verset-là, méditez-le jour et nuit. Vous allez voir que ce n'est pas possible de rester comme on est. Nous devons progresser, les amis, tous. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Si vous considérez ce verset, vous progresserez tous les jours. C'est obligatoire de progresser, si vous êtes convaincu de ça. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La miséricorde de Dieu, c'est des exemples. Ici, entre Blé et Gomery, l'eau vient des bois de Grandcourt. Elle passe à Saint-Remy, elle va à Signol, elle va à Mussy, un embranchement, puis elle va vers Blé, et Blé, elle va à Gomery. On est les derniers, quoi. Et sur chaque colline, il y a un réservoir. Là, si vous montez la colline vers Blé, il y a un réservoir. Pourquoi il y a un réservoir? Ben, parce que si jamais tout le monde prend de l'eau en même temps, et qu'il n'y a pas de réservoir, ben ça y est. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien, les machines à laver, il n'y a plus rien qui va. Donc, il y a des moments où personne ne prend presque pas d'eau, en dormant et tout ça, le réservoir se remplit. Et au moment où tout le monde prend de l'eau, que tout le monde se lève à peu près en même temps, que les robinets s'ouvrent, ben, il y a de l'eau qui coule à tous les robinets à la bonne pression. Dieu est le plus grand des réservoirs de vie qu'il n'y ait. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous veut pas la vie. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'a pas prévu une vie plénière pour vous. Colossiens, et j'en termine là, et c'est une joie pour moi de prêcher comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je connais Yvon depuis plus de 40 ans. Voilà. Et il y en est passé par des chemins, notre Yvon. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour revenir vers notre Dieu. Colossiens. Et c'est un ange hein, qui vient de Verdun, hein, de Plaisance. Hein. Il est chrétien là-bas et lui, il se donne la peine d'aller chercher Yvon et de venir ici. C'est un ange. Fais-lui un gros bisou quand il partira.
Des amis, parce que je suis venu en hospitalisation. Enfin, on n'a pas été ensemble. C'est par rapport à un intermédiaire d'un copain à lui. C'est cool.
Voilà. Et moi, je me rappelle l'Yvon que j'ai connu, le jeune homme, avec des peps, hein, et le jeune homme en forme et tout, hein, qui a fait sa maison lui-même à être. Hein. Ouais. Naturellement, la carrosserie vieillit, tout le reste, comme chacun de nous, mais en attendant, c'est toujours le même Yvon. Et le même qui lui a donné la vie. Et le même qui aime Yvon. Comme chacun de nous. Alors, dans Colossiens, vous savez que le réservoir le plus grand, c'est Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 2. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée. C'était une église de mou, puisqu'on ne se consacre pas vraiment à Dieu. Hein. Porter le nom de chrétien, c'est tout. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils se unissent dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence. Donc il prie, le cœur rempli de consolation, unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Imaginez ce que ça veut dire, le réservoir de là, sur la côte, à côté, c'est rien du tout. Mais le réservoir divin, il est infini.
Colossiens 2, 3.
Et vous avez la même chose à propos de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 9. En lui habite corporellement, donc le Christ avec son corps de gloire, qui a les marques dans les mains et dans les pieds et au flanc là, qui est ressuscité, qui est glorieux, qui est assis sur le trône de gloire, qui reviendra, que nous verrons, nous lui deviendrons semblables, regardez bien, verset 9, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Le Fils prodigue est retourné vers la plénitude de l'amour. Notre monde, qui va se casser la figure, retournera à la plénitude de son Père. Tôt ou tard, c'est la mission qui est confiée à Jésus-Christ.